Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditrices et auditeurs, aujourd'hui je suis avec Marie-France Sangla de l'Office central de coopération à l'école. Eh bien on va parler de coopération à l'école avec vous Marie-France, mais je vais d'abord vous demander de vous présenter.
Alors je suis retraitée de l'enseignement, j'ai été directrice longtemps de la maternelle du Pelou à Bourg-en-Bresse et puis j'ai terminé ma carrière à l'école primaire Baudin.
À l'école primaire Baudin. Et donc, pendant toutes ces années, vous avez agi pour la coopération à l'école ?
Oui, en fait, en tant que directrice, j'étais mandataire de la coopérative scolaire. Et donc, je connaissais l'OCCE, mais je n'y étais pas tout de suite. Je n'ai pas tout de suite été dans le bureau. J'y suis rentrée en 98.
Vous y êtes rentrée en 98. Oui. Mais précisons d'abord, Office central de coopération.
Voilà. Alors c'est un ancien terme qu'on a été obligé de garder puisqu'on avait le sigle OCCE, on ne pouvait pas le modifier. Donc ça s'appelait un Office central de la coopération à l'école parce qu'au départ, ça n'était pas une fédération comme maintenant, c'était un office qui avait des sections départementales. Et les sections départementales n'étaient pas autonomes. Tout passait par l'Office central. Et nous avons été créés en 1928. Donc nous allons bientôt avoir 100 ans.
Ah, la LDH a 120 ans et vous allez avoir 100 ans.
Voilà, on va avoir 100 ans. Et c'est pour ça que ce terme est un peu étonnant, Office central de la coopération à l'école. En tout cas, depuis sa création, c'est une structure qui permet de répandre l'idée de coopération et non pas de compétition à l'école. Par exemple, on travaille beaucoup autour de travailler ensemble, respecter les autres, mais surtout travailler ensemble pour faire un projet ensemble.
Alors, quel est son rapport à l'école ? C'est-à-dire que l'école a un rôle et quel est le rôle de l'OCCE justement par rapport à l'école ?
Alors, nous avons dès le début été missionnés par le ministère de l'Éducation nationale pour gérer l'argent. Parce qu'en fait, les directeurs d'école ne sont pas des chefs d'établissement. Ils n'ont pas le droit de gérer de l'argent en dehors ils ne gèrent pas d'argent. Et l'Office central a été créé pour permettre aux enseignants de pouvoir mener des projets et financer ces projets avec les élèves.
Avec les élèves. Donc, financer ces projets, mais donc dans un souci coopératif et avec également donc, une complémentarité pédagogique par rapport aux enseignants.
Alors il y a deux aspects dans l'OCCE. Il y a la gestion de l'argent, puisqu'on est missionné par le ministère pour cela. Et pour cela, nous avons des enseignants détachés. Nous avons une subvention du ministère. Et parce que nous aidons à gérer toute cette partie de l'argent. Mais en même temps, nous appuyons sur la pédagogie coopérative, c'est-à-dire sur une façon de prendre l'avis des élèves, de prendre leur projet, de faire en sorte que les élèves soient écoutés à l'école, qu'ils soient respectés, en même temps qu'ils apprennent à gérer des projets.
Voilà, c'est-à-dire en faire, parce que les enfants, on a souvent l'habitude de les objectiver, mais en faire des sujets peut-être.
Voilà, c'est-à-dire qu'on instaure beaucoup de débats. Quand on va choisir un projet, eh bien, il y a débat sur le type de projet qu'on va faire, sur comment on va le faire, avec qui. Et là, les enfants sont vraiment concertés. Et à travers le conseil d'enfants. Le conseil d'enfants, c'est aussi une structure qu'on a mis en place très tôt, dès la création de la coopérative scolaire.
Faire prendre conscience aux enfants de leur part de citoyenneté, de leurs droits ?
Tout à fait. C'est-à-dire, chaque enfant a le droit de s'exprimer. Toutes les idées sont bonnes à prendre, mais tout ne sera pas conservé. Donc il y a vraiment cette idée de débattre et puis de choisir. Et quand on choisit, on vote. Et le vote à la majorité, quelquefois, c'est frustrant pour ceux qui n'ont pas voté pour, mais c'est vraiment un apprentissage citoyen.
Donc, c'est un côté intergénérationnel ?
Oui, bien sûr, parce qu'on a, on a quand même, il y a déjà, les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes, hein, ils ont déjà l'enseignant, et puis ils ont rapport avec, avec d'autres personnes qui sont plus âgées.
Et avec une façon de gérer les institutions, de voter, de savoir comment ça se passe.
Voilà, tout à fait.
Et il y a aussi les droits des enfants. C'est une réalité.
C'est une réalité. On essaie de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant.
Oui,
c'est un de nos objectifs. Donc là, chaque année, autour du 20 novembre, puisque c'est un peu symbolique, on lance des actions autour de la réflexion sur les droits et puis d'une action qui permette d'illustrer des droits pour que les enfants prennent conscience qu'ils ont des droits et qu'ils sont, ils sont responsables aussi de l'application de ces droits. Donc on les aide à revendiquer leurs droits, par exemple.
Est-ce que vous avez eu des actions marquantes?
Oui, alors dans là, on a toujours. Alors, on a un groupe national qui réfléchit à une action un peu phare chaque année. Et dans là, on a toujours relayé les actions nationales. Et pendant plusieurs années, on a fait une opération qui s'appelait Plantons nos droits. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on lançait l'opération, on expliquait aux classes qu'on attendait d'elles. Et au mois de mai, on laissait entre le mois de novembre et le mois de mai pour travailler. Et on demandait aux enfants de faire des petits projets par deux ou trois, de choisir un droit et de choisir de l'illustrer sur une sorte de bulle en carton qu'ils collaient sur un petit piquet, un petit tuteur. Et au mois de mai, on allait planter des droits quelque part dans la ville. Et donc, on a investi le Square Lalande. C'était un grand succès. Ça a été une opération qui a été d'abord très respectée parce que rien n'a été enlevé pendant 10 jours. On a travaillé en collaboration avec les jardiniers de la ville qui nous avaient libéré des plates-bandes pour qu'on puisse planter. Et on avait fait une inauguration. Et c'était vraiment une belle action parce que les enfants ont vraiment discuté. Parce qu'ils n'ont pas fait qu'illustrer autour des droits. Ils ont discuté qu'est-ce que c'était que le droit à l'éducation. Est-ce que tous les enfants dans le monde avaient le droit à l'éducation? Est-ce qu'il était respecté? Donc ils ont fait des recherches. Et puis après, ils ont illustré leurs droits. Mais l'important, c'était le symbole, c'était la plantation des droits. Mais tout le travail qu'il y a eu en amont, entre le mois de novembre et le mois de mai, ça a été un gros travail autour de la Convention internationale.
Donc cette Convention internationale des droits de l'enfant, donc, qui a permis d'établir des droits de l'enfant, qui bien entendu, c'est toujours une lutte, hein, puisque...
Bien sûr, c'est loin d'être acquis.
On a la chance de pouvoir en discuter en France, mais dans plein de pays du monde, ça reste
bien
à
sûr.
Conquérir.
Et ça n'est jamais acquis. Et ça n'est jamais acquis. Et en France, chaque année, enfin tous les 5 ans, la France est auditionnée à l'ONU sur l'application de la CID et de la Convention. Et la France se fait retoquer. Alors, bien sûr qu'on a de la chance d'avoir un maximum de droits qui sont respectés, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont à la rue, qui ne vont pas à l'école, même en France. Et du coup, tous les 5 ans, la France est auditionnée, il y a des recommandations, et on se rend compte que ces recommandations, elles ne sont pas toujours respectées.
Quand les droits d'enfance, l'enfant sont dégradés, ce n'est pas un peu le symptôme d'une société qui va mal?
Bien sûr, bien sûr. Parce que la précarité augmente, les enfants qui sont à la rue ne vont pas à l'école parce qu'ils ne sont pas répertoriés, ceux qui vivent en hôtel social, ils ne vont pas toujours non plus à l'école. Donc ce droit-là à l'éducation, mais il y a aussi le droit à la santé, le droit à la nourriture, enfin, le droit à être nourri correctement. Quand on voit l'affluence au Resto du Cœur, on comprend que tout ne va pas bien quand même.
Donc tout ne va pas bien, mais vous faites en sorte donc de faire connaître ces droits de l'enfant et de rendre les enfants acteurs.
Oui, tout à fait. Parce que quand on présente la Convention, on organise des débats. On propose, nous, à l'OCCE, des moments de réflexion autour d'un thème. Par exemple, est-ce que le droit à l'éducation est respecté partout, par exemple? On pose cette question. Et puis après, les enfants font des recherches, parce que maintenant, quand même, on a des moyens de faire des recherches assez rapides, et se rendent compte que, quelquefois, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, mais c'est quand même une chance d'aller à l'école, par exemple.
Et vous travaillez beaucoup par le biais des enseignants, et vous m'avez parlé de mallettes pédagogiques.
Voilà. Alors, on construit des outils, des ressources. Donc, par exemple, pendant plusieurs années, on a envoyé une lettre par jour pendant 5 jours, la semaine du 20 novembre. Et dans cette lettre, il y avait des ressources pédagogiques. Par exemple, il y avait une poésie, un sujet de débat, un jeu qui était proposé, comme si le bingo ou l'auto, et avec les articles, par exemple, avec les articles de la Convention. Et puis des albums, on sélectionnait des albums pour enfants et on donnait la bibliographie dans ces lettres, par exemple.
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le terrain pour appuyer vos actions ?
Bien sûr. Alors nous avons la chance d'avoir une enseignante détachée. Donc ça fait partie des aides de l'État, ça. C'est qu'on détache un enseignant. Comme il est enseignant, ben, il connaît bien l'école parce qu'il est quand même dans l'école. Et du coup, nous, à Bourg, c'est Patricia Koulilis. Donc elle se déplace dans tout le département à la demande des enseignants pour organiser des réunions de formation ou pour animer des séances, par exemple, de jeux coopératifs ou des séances de poésie ou des séances de théâtre, puisqu'on fait l'opération théâtre.
Comment vous sollicitez ?
Alors, toutes les écoles adhérentes reçoivent toutes les informations. On a une newsletter et puis on a des informations qui partent régulièrement à toutes les écoles adhérentes.
À toutes les écoles adhérentes, ce qui n'empêche...
Oui. Toutes les écoles ne sont pas adhérentes, puisque la coopérative scolaire, l'adhésion à la coopérative scolaire n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, c'est pour les enseignants de créer une caisse officielle qui est validée par l'inspecteur d'académie. Mais qui est autonome, c'est possible. Mais l'avantage de l'OCCE, c'est que nous, on contrôle tout. On contrôle les comptes. Chaque année, toutes les classes adhérentes renvoient leurs comptes et on vérifie les comptes, par exemple.
Donc, au départ, il faut une volonté d'établissement pour adhérer à l'OCCE ?
Absolument, absolument. Bon, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de problème. On commence à avoir des problèmes maintenant. On commence à avoir des écoles qui disent, nous, on préfère, la cotisation est trop chère, on préfère être autonome. Donc, ils ont le droit, absolument. Mais il faut que ce soit validé par l'inspecteur d'académie. Dans ce cas-là, c'est le directeur de l'académie qui est responsable, du coup.
Ça fait un certain temps que vous luttez pour les droits des enfants et faire connaître donc la coopération à l'école. Oui. Quelle est la flamme qui vous anime ?
Ben c'est vraiment la conviction que les enfants ont besoin d'être respectés en tant que personnes. En tant que futurs citoyens, mais ils sont quand même des citoyens en herbe, et qu'il faut leur apprendre à se respecter, à respecter les autres, à être tolérant, à être solidaire. Et je pense que ça commence dès l'école, ça.
Quel est votre espoir pour l'avenir, Marie-France?
L'espoir, c'est qu'il y ait une réaction à la société consumériste et qu'on revienne. On ne peut pas revenir en arrière. Et puis, je ne souhaite pas qu'on revienne en arrière. Mais ma conviction, c'est qu'il faut absolument que... Tout passe par l'école, tout passe par l'éducation. Alors, l'école, la famille, moi, ça, j'y crois beaucoup.
Eh bien, après ce plaidoyer pour l'éducation, la coopération, l'intégration des enfants donc au devenir de notre société, bien, je vous dis à bientôt, amis auditeurs, et je vous remercie beaucoup, Marie-France Sangla.
Merci.